Chapitre 95. Juna met un masque et des gants de protection avant de descendre dans la pièce d'abattage exiguë pour examiner les animaux morts. Il inspecte rapidement les viscères puants par terre et les morceaux d'animaux cloués et pendus, mais ne trouve aucun reste humain. Il semble s'agir d'une combinaison incontrôlable d'abattage de lapins et de cruauté envers les animaux. Il voit des tentatives amorcées de tannage et des lambeaux de peau déchirés sur un banc d'étirage, ainsi que des traces ignobles de dépeçages brutaux, de collecte de trophées et autres abjections. Sur le mur éclaboussé derrière l'établi est affichée une vieille coupure de journal montrant Rex qui brandit une statuette de cuisinier argentée. Juna emporte au soleil la cage avec le lapin vivant et s'enfonce un peu dans la forêt pour libérer l'animal. Yannes a posé son fusil de précision contre la clôture du tennis et défait son gilet pare-balles. Il glisse un comprimé dans sa bouche, écarte ses cheveux roux frisottants et boit de l'eau directement au goulot. Il incline la tête en arrière et avale. « Je t'ai vu sur un des vieux films de surveillance de chez William Fock, » dit Juna. « Mon premier boulot à la CEPO a été de faire le ménage chez lui. » C'était une excellente utilisation de l'argent du contribuable. Certaines des filles étaient tellement amochées que j'ai dû les conduire aux urgences. Et ensuite, c'était à moi de veiller à ce qu'elles se taisent et disparaissent. Je comprends que t'aies changé de département. C'était à la demande du ministre lui-même. Je l'avais simplement coincé contre un mur en serrant sa petite bite. Et je lui avais dit que j'étais peut-être obligé de le protéger. Mais que j'avais deux visages, dont l'un n'était pas beau à voir. Magnus Molander attend Juna quand il revient vers la maison avec la cage vide. Il a les joues grises comme s'il avait de la fièvre, et il grelotte malgré la transpiration qui luit sur son front. « Il n'y a rien dans l'ordinateur, » rapporte-t-il. « Le technicien a procédé à un premier examen. Il ne trouve aucune information qui indiquerait où est passé David Jordan. » Il se tait quand Rajmaud les rejoint pour les informer qu'une femme est descendue du bus et se dirige à pied vers la maison. « Fais retirer les barrages avant qu'elle les voie, » dit Juna. « Planquez-vous et on verra si elle vient ici. » Ils se rassemblent tous derrière la maison des invités, où on ne peut pas les voir depuis la route. 9 policiers lourdement armés, Juna Lina et le technicien de la NOA. La grille s'ouvre avec un léger grincement. Juna dégaine son arme et la cache contre son corps quand il entend la femme marcher sur l'allée gravillonnée. Lorsqu'elle arrive entre les deux maisons, le bruit devient plus sourd. Elle est tout près. Juna fait un pas en avant. Elle pousse un cri de frayeur. « Désolé de vous avoir fait peur, » dit-il en collant le pistolet à sa jambe. La femme le fixe, les yeux écarquillés. Ses cheveux sont raides et blonds, elle porte un jean pâle, de simples sandales et un t-shirt délavé portant l'inscription « Feel the burn ». « Je suis de la police et je voudrais vous poser quelques questions », poursuit Juna. Elle essaie de se calmer. Elle sort un téléphone de son sac en toile et fait un pas vers lui. « Je vais juste appeler la police et vérifier. » Elle se tait brusquement en découvrant le groupe d'intervention avec tout son arsenal qui attend près du mur. Toutes les couleurs quittent lentement son visage quand elle voit les gilets pare-balles, les casques, les armes automatiques et les fusils de précision. « Où est David Jordan ?» demande Juna en remettant son pistolet dans l'étui.
« Comment ?»
La jeune femme lance un regard médusé sur la maison et la porte d'entrée arrachée. « David Jordan, » répète Juna, « il n'est pas chez lui. »«
Non, »
dit-elle d'un filet de voix.
« Il est dans le Norland. »
Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Elle cligne des yeux comme si elle était aveuglée.
Je ne sais pas. Il travaille, je suppose.
Ou dans le Norland.
Qu'est-ce qui se passe?
Appelez-le, l'exhorte Juna en montrant le téléphone qu'elle tient toujours à la main. Demandez-lui où il se trouve sans dire que nous sommes chez lui.
Je ne comprends pas,
chuchote-t-elle, et elle plaque le téléphone contre son oreille pour le baisser presque aussitôt.
« Répondeur. Je tombe sur le répondeur. »«
Vous êtes en couple ? demande Jonah qui l'observe avec des yeux gris comme de la pierre.
En couple, je n'ai jamais réfléchi à ça, mais on se voit assez souvent. J'aime venir chez lui. J'arrive à peindre quand je suis ici, mais on n'est pas spécialement proches. J'ignore totalement ce qu'il fait, à part qu'il produit les émissions de cuisine de Rex, mais c'est tout.
Elle se tait et dessine dans le gravier avec le pied. Mais vous saviez qu'il allait s'absenter?
Il m'a juste dit qu'il partait dans le Norland. Il sait que je m'en fiche.
Le Norland, c'est aussi grand que la Grande-Bretagne, dit Jonah.
Il a peut-être mentionné Kiruna, c'est ça. Je crois bien qu'il a dit Kiruna.
Que va-t-il faire là-bas, à votre avis?
Aucune idée.
Sans un mot, Jonah se dirige vers sa voiture. Il s'installe au volant tout en appelant Anya avec son nouveau téléphone pour lui demander de lui réserver un billet d'avion. Vous avez trouvé Rex Müller?
Ils ne sont pas là, ni lui ni son fils. Personne ne sait où ils se trouvent. On a demandé à TV4 et à la mère du fiston qui est en voyage, mais...
En tout cas, il semblerait que David Jordan soit parti à Kiruna ce matin, l'interrompt Jonah, et il s'engage sur la route.
Pas d'après les listes de passagers.
Vérifie si des avions privés ont atterri à l'aéroport ou ailleurs.
D'accord.
Parce que moi je pars pour Arlanda tout de suite, ajoute-t-il.
Bien sûr, répliqua Anya calmement.
Et je compte sur vous tous pour pister leur téléphone entre-temps.
On va essayer, mais les opérateurs sont plus que réticents à divulguer ce genre d'informations.
Il vous faut juste résoudre le problème avant que je prenne l'avion.
Je peux voir avec le procureur.
Laisse tomber. Tu leur forces la main, tu enfreins la loi. Je suis désolé, mais si on ne trouve pas Rex et son fils, ils vont se faire tuer très bientôt.
Je laisse tomber, répète-t-elle doucement. Je leur force la main et j'enfreins la loi.
La route forestière sinueuse est déserte. Jonah dépasse quelques maisons de campagne, regroupées autour d'un lac lisse comme un miroir, avec un plongeoir en bois en plein milieu. Derrière une clôture, il aperçoit un homme qui tient un robot tondeuse à gazon dans les bras. Il accélère et débouche sur une route plus grande près d'une station-service au moment où Anya le rappelle.
Jonah, on n'y arrive pas.
Elle lui fait savoir que les techniciens de la NOA ont essayé de localiser David Jordan et Rex à l'aide du GPS et par triangulation des antennes GSM. Il est impossible d'activer leur téléphone portable à distance pour qu'ils envoient leurs données de position. Et comme les opérateurs ne sont pas non plus parvenus à localiser de signaux émis à partir des antennes locales à Kiruna, les techniciens sont certains que les téléphones de David Jordan et de Rex ne sont pas éteints, mais détruits.
Et le téléphone de Sammy? Demande Jonah. On y travaille, le rabroue Anya. Arrête de me stresser, je supporte pas ça. Tout le monde fait la gueule, ça manque de glamour, ça manque de flirt et de fun.
Pardon, dit Jonah. Et il accélère sur la bretelle d'accès à l'autoroute.
Mais tu as peut-être raison. Un Cessna quelque chose de Stockholm a atterri tôt ce matin à la base d'hydravion de Kuravara.
Et du coup, il n'y a pas de liste de passagers.
Attends une seconde.
Il l'entend parler et remercier quelqu'un de son aide.
Jonah?
Oui.
On a localisé le téléphone de Sammy. Il se trouve du côté de Hallunda, au sud de Stockholm. On a une adresse exacte, une maison mitoyenne dans la rue de Tomtbergavegen.
Je suis soulagé d'apprendre qu'il n'est pas allé dans le Norland, commande Jonah. Envoie une voiture là-bas et fais en sorte que Janet Fleming parle avec Sammy. Il faut absolument que je sache où sont partis Rex et David Jordan.